L'actualité des Alpes du Sud avec le procès en appel de Quentin Bonafou.
Ce brillant sonné de 24 ans a été condamné à 20 ans de réclusion criminelle pour avoir sauvagement tué son ami d'enfance de 43 coups de serpette.
La solidarité bleu-jaune se poursuit.
Désormais dans les Alpes d'Haute-Provence, on suspend les collectes, les lieux de stock sont saturés, on appelle donc aux dons financiers. Des dons financiers, il y en aura de la part de la région PACA qui elle aussi hisse le drapeau bleu-jaune. 4 millions d'euros pour la solidarité envers la population ukrainienne, mais aussi en soutien à nos entreprises régionales qui sont directement impactées par cette crise.
Le projet ITER représente-t-il un danger pour la population et l'environnement ?
Un projet qui doit reproduire en domestiquant la fusion nucléaire l'énergie du soleil. Il est basé à Cadarache, à la frontière avec les Alpes d'Haute-Provence. Mais des révélations de l'ancien directeur de la communication entachent ITER, Michel Classin, s'y dénonce une gestion par la peur et des erreurs techniques dangereuses.
Laetitia Roux appelle à faire de l'écologie une matière à l'école.
La sportive savinoise, 17 fois championne du monde de ski alpinisme, co-signe une tribune et interpelle les candidats à la présidentielle dans les Alpes d'Haute-Provence. On utilise le Kamishibai pour sensibiliser au tri. On y suit notamment au gré d'illustrations l'histoire de Bifidus, un pot de yaourt.
Et puis en hockey sur glace, coup d'envoi des playoffs pour les Rapaces.
Les Rapaces qui font face à la montagne de Rouen. Quels enjeux ? Réponse avec Christophe Lourenceau. Côté météo, c'est plutôt mitigé.
Oui, alors ce sera alternance d'éclaircies et de quelques nuages sur les Alpes de Haute-Provence. En revanche, dégradation nuageuse qui se poursuit toute la journée sur les Hautes-Alpes, mais le plafond nuageux devrait rester relativement élevé. En revanche, sur le secteur frontalier avec l'Italie, les nuages accrochent le relief et il y aura même quelques possibles flocons toute la journée. Les températures maxi sur nos deux départements, ça s'échelonne de 10 jusqu'à 15 degrés. Quentin Bonafou sera-t-il coupable de violence volontaire plutôt que d'homicide ?
Ce brillant sonné de 24 ans est depuis hier devant la cour d'assises d'Isère à Grenoble. En avril dernier, il avait été condamné à Gap à 20 ans de réclusion criminelle pour avoir sauvagement tué son ami d'enfance, Yvan Bellinga, en lui assénant 43 coups de serpette. C'est le meurtre de la placette à Gap qui fait donc l'objet d'un appel. L'avocat de la défense plaide pour des violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Le verdict sera connu aujourd'hui.
La solidarité bleu-jaune change de forme dans les Alpes de Haute-Provence.
Les collectes pour l'Ukraine sont à l'arrêt pour la semaine prochaine. La générosité est si forte qu'il y a le risque d'engorger les sites régionaux et nationaux. 6 camions ont acheminé cette semaine depuis Digne et Sisteron 5 tonnes de dons jusqu'à la protection civile de Toulon. 5 tonnes, mais 2 sont encore stockées dans les locaux de la protection civile basalpine. Ils seront convoyés demain. Si de nouveaux besoins se font jour, un nouvel appel à la solidarité sera relayée par l'AMF. Désormais, si vous voulez aider le peuple ukrainien, vous pouvez effectuer des dons financiers. Retrouvez les liens sur alpe1.com. Une solidarité bleu-jaune de 4 millions d'euros pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. C'est la somme que PACA mobilise pour l'Ukraine, mais aussi pour l'économie locale, pour ses filières qui sont touchées par cette crise internationale. Une mesure exceptionnelle discutée hier après que Renaud Muselier ait convoqué une cellule de crise suivie d'une commission permanente exceptionnelle. 380 000 euros seront partagés entre 4 structures de soutien à l'Ukraine, le FACECO, Acted, la protection civile et le fonds de dotation pour les pompiers ukrainiens. Ça, c'est pour le côté financier. Et puis, il y a l'action immédiate, le déploiement dès aujourd'hui d'un numéro vert et l'envoi de 6 semi-remorques lundi. Renaud Muselier, le président.
Solidarité bleu-jaune pour réguler, aiguiller, traiter les initiatives et les besoins de façon à ce qu'il y ait une canalisation pour tous ceux qui cherchent quelque chose à faire et où et comment. C'est le 0800 730 098. Départ d'un convoi humanitaire régional, 6 semi-remorques de 33 tonnes chacun partiront lundi de Toulon, 3 pour la frontière moldave en lien avec l'ambassade de France, 3 pour la frontière polonaise.
Renaud Muselier, je rappelle donc le numéro vert, le 0800 730 098. 3 millions d'euros ont été débloqués par l'Europe pour l'accueil de réfugiés sur PACA. Des hébergements seront mis en place dans les lycées publics. Les réfugiés pourront également accéder aux transports régionaux ainsi qu'à des repas jusqu'au 30 juin. Pour les étudiants ukrainiens, biélorusses ou russes, une aide de 500 euros est proposée pour qu'ils poursuivent leur cursus sur la région. Une task force régionale spéciale Ukraine est aussi mise en place. C'est un soutien pour les entreprises régionales qui importent ou exportent en Russie ou en Ukraine pour leur permettre de trouver de nouveaux débouchés. Et puis finalement, la culture ukrainienne n'est pas en reste avec une enveloppe de 50 000 euros en faveur de l'association Atelier des artistes en exil.
Et on poursuit la mobilisation pour la paix en Ukraine dans les Hautes-Alpes.
Autour de revendications comme le cessez-le-feu, le retrait des troupes russes ou la dissolution de l'OTAN, 12 organisations alpines tiennent plusieurs manifestations ce week-end. Une veillée pour la paix, ce sera ce soir à l'arène Montéglin dès 18h sur la place de la Fontaine. Un rassemblement demain à Vennes dès 11h, place du Soldat Anselme, et un événement musical à Gap à compter de 14h sur l'esplanade de la paix. Et puis notez que la CGT des Hautes-Alpes s'inscrit dans les récoltes de dons. Syndiqués et citoyens pourront les déposer dans les locaux Gapensée, mais aussi tous les jeudis à l'arène Montéglin, à Vennes et à Briançon.
C'est le dossier de la rédaction d'Alpe 1. Le projet ITER représente-t-il un danger pour la population et l'environnement ?
Un projet entaché par des retards, des surcoûts et aujourd'hui des révélations. Basé à Cadarache, à la frontière des Alpes d'Haute-Provence, ITER doit reproduire l'énergie du soleil en domestiquant la fusion nucléaire. 35 pays, dont l'Europe, sont engagés dans la construction du plus grand tokamak jamais conçu. L'objectif ultime est de concevoir une source d'énergie à grande échelle non émettrice de CO2. Mais désormais, le projet accuse un retard de 10 ans et un coût qui a grimpé de manière exponentielle de 5 milliards au début à plus de 40 milliards aujourd'hui. Un projet pharaonique également entaché par les révélations de Michel Classens. L'ancien directeur de la communication du projet ITER a été entendu fin février auprès du Parlement européen. Il dénonce une gestion par la peur et des erreurs techniques mettant en danger les travailleurs et l'environnement.
J'ai accumulé trop de témoignages, trop d'informations que je ne peux plus, que je ne veux plus garder uniquement pour moi.
Après 5 ans passés au cœur d'ITER, Michel Classens ne veut plus garder le silence. Il ne veut plus se taire quant au risque de ce projet. Lanceur d'alerte auprès de la Commission européenne qui finance ce projet pour près de la moitié, il a dénoncé des dérives inquiétantes à la fin février, notamment les risques pour la protection de l'environnement et des travailleurs. L'autorité de sûreté nucléaire a relevé des erreurs commises et a stoppé le montage du réacteur tokamak, demandant des correctifs.
Pour les murs de protection biologique, les 3 bâtiments nucléaires à ITER, dont celui du réacteur, sont entourés de murs en béton nucléaire, un béton spécial, qui ont jusqu'à 2 mètres d'épaisseur pour arrêter les radiations, les rayonnements.
C'est le fameux bioshield qui entoure le tokamak et qui doit protéger normalement les travailleurs.
Tout à fait, et l'environnement. À cause d'erreurs de conception et de fabrication, la protection biologique de ces murs sera grosso modo 30% inférieure à ce qu'elle devrait être.
Les travailleurs et l'environnement seront soumis à des radiations ?
Et si on ne fait rien, oui, tout à fait. Mais pour le moment, la solution qui a été proposée par l'organisation ITER n'a pas été acceptée par l'ASN.
L'ASN qui a également constaté en juillet dernier que le certificat d'une soudure non conforme a été falsifié. Dans la foulée, le responsable de l'assemblage du réacteur a démissionné parce qu'on lui imposait de faire de faux témoignages. 3 personnes ont également été licenciées pour avoir refusé d'installer, sans les tester, des pièces qui présentaient un risque mortel pour le personnel de maintenance. L'organisation d'ITER aurait instauré une gestion par la peur, selon Michel Classens.
Mes collègues, en me demandant de ne pas les nommer, et en faisant tout pour ne pas être connu, c'est-à-dire qu'on parle sans pas par email, même pas par téléphone, ils me disent quasiment tous le stress insupportable. Les décisions changent parfois de manière incompréhensible. On a peur d'être viré. Une gestion par la peur qui s'est installée dans tout le projet, dans les sites principaux, Cadarache et Barcelone. Il y a un stress et une peur, c'est une gestion par la peur. Il faut changer le management. J'ai encore appris, il y a 2 semaines, il y a eu un suicide sur le site de Cadarache, dans un des contractants du projet.
Déjà en mai 2021, un ingénieur italien de 38 ans au sein de l'agence Fusion 4 Énergie à Barcelone s'était donné la mort. Dans une lettre, il expliquait son suicide par un effondrement professionnel après avoir été traité en bouc émissaire et humilié au premier degré.
Un dossier à retrouver sur alpin.com, notamment l'entretien dans son intégralité de Michel Cassens.
Ils veulent instaurer l'écologie comme matière principale à l'école. Des scientifiques, des ONG, des sportifs signent une tribune avant les présidentielles.
Parmi eux, la Savinoise Laetitia Roux, 17 fois championne du monde de ski alpinisme. Aux côtés des autres signataires, elle veut donc interpeller les candidats à la présidentielle et aux législatives et appelle à enseigner l'écologie en matière principale à l'école pour préserver la vie et s'adapter aux bouleversements écologiques. Si 90% du temps des enfants est à l'école, moins d'un lycéen sur trois a un socle de connaissances approfondies sur l'écologie et le changement climatique. Et justement, dans les Alpes-de-Haute-Provence, on commence déjà l'enseignement écologique grâce à la culture japonaise. Un kamishibai, c'est ce qui est utilisé par le Sidevom pour apprendre la réduction des déchets, signifiant littéralement pièce de théâtre sur papier. On suit au gré d'illustrations l'histoire de Bifidus, un jeune pot de yaourt dans son aventure du tri au recyclage. Les enfants de 6 à 9 ans sont bien entendu les principales cibles de cette animation présentée cette semaine au mai. Selon Gérard Paul, le président du Sidevom, la jeunesse est le parfait vecteur pour influencer aussi les familles.
On souhaite que, et on pense que ce moyen ludique peut permettre de sensibiliser davantage les enfants, lesquels seront les bons porte-parole auprès de leurs parents pour que le petit pot de yaourt, il finisse au bon endroit dans la poubelle jaune. Ce qu'on a constaté dans les caractérisations qu'on a fait des sacs poubelles, on observe que 70% des produits qui sont dans les sacs poubelles et qui donc vont finir à l'enfouissement ne devraient pas être dans le sac poubelle et pourraient être soit recyclés, soit compostés, etc. Donc l'enjeu, c'est de faire en sorte qu'on arrive à sortir ces 70% des poubelles.
Et puis le Sidevom s'engage tout au long de l'année scolaire avec des interventions de sensibilisation à toutes les classes de CE2, CM1 et CM2.
Le col de Montgenèvre au cœur d'une grande maraude solidaire ce samedi.
Mobilisation pour soutenir les personnes réfugiées et migrantes alors que selon les associations, les politiques migratoires européennes se durcissent un peu plus chaque jour et obligeraient les exilés à emprunter des itinéraires dangereux. Rassemblement donc au col de Montgenèvre demain dès 18h. Et puis One Voice veut faire entendre la voix des loups à Digne-les-Bains. L'association qui milite pour les droits des animaux organise un rassemblement dimanche. Elle demande à l'État de stopper les tirs sur les canidés dans le cadre du plan loup. Une pétition a aussi été lancée.
Et c'est le thermalisme qui sera au cœur du déplacement de Jean-Baptiste Lemoyne.
Le ministre chargé du tourisme, des Français de l'étranger, de la francophonie et des PME se rend à Gréoux-les-Bains et à Volx ce vendredi. Il présentera le plan destination thermale qui vise à renforcer l'attractivité et le développement des destinations touristiques de bien-être françaises.
Ushuaïa TV, pose sa caméra dans les Hautes-Alpes.
Une équipe de l'émission Bouger Vert tourne actuellement deux épisodes de ce magazine dédié au patrimoine naturel et aux activités de pleine nature. Première diffusion prévue le 3 avril qui amènera les téléspectateurs du côté de l'Arène Montéglin pour découvrir la montagne de Chabre en quad bike et les gorges de la Méouge en trottinette électrique. Et puis, une semaine plus tard, l'émission sera consacrée cette fois à la pratique de l'escalade à Céuse et du gravel à Charence.
Alpe 1 Sport.
Et les rapaces face aux champions rouennais.
Après 21 victoires et 23 défaites en 44 matchs, le club de hockey gapensé a décroché la 6e place de la saison régulière de Ligue Magnus. A rempli son objectif d'atteindre les play-offs. Dès ce vendredi, c'est un tout autre championnat qui débute avec un premier obstacle de taille en quart de finale, les Dragons de Rouen. Description de ce duel avec Christophe Laurenceau.
Avec 11 victoires de plus que la formation alpine, les Dragons de Rouen ont pris la dernière place du podium de la phase régulière, mais se sont battus jusqu'à la dernière journée pour subtiliser la deuxième place au Duc d'Angers. Une troisième place qui les oblige donc à croiser le chemin des Rapaces de Gap qui ont su sortir les griffes en début de saison, peut-être obnubilés par son parcours en Ligue des Champions qui s'est brillamment achevé en quart de finale. Les Rouennais ont, quoi qu'il en soit, subi la loi des hommes déréglés à deux reprises, deux victoires 3-1 et 3-0 obtenues en septembre et novembre 2021 avant que le club normand se ressaisisse à domicile en janvier avec un net succès 6-3. La quatrième et dernière rencontre a laissé un goût amer aux Rapaces qui ont tenu la dragée haute aux Dragons à domicile avant de perdre cruellement au tir au but. Malgré les 32 points qui les séparent au classement, l'écart sur la glace n'a pas été aussi criant comme l'a révélé ses dernières confrontations. Bien qu'outsider, les récents finalistes de la Coupe de France ont tout à gagner et ont clairement une carte à jouer, même si la montagne sera coup sûr de taille. Premier call hors catégorie de ce duel au meilleur des 7 matchs ce vendredi à partir de 20h sur la patinoire de l'Île-la-Croix.
Merci Christophe, programme très chargé pour les Gapensais qui enchaîneront le lendemain avant de rentrer à l'Alp Arena ce lundi et ce mardi. Si nécessaire, le cinquième match aura lieu dans la capitale douce mercredi. Notez que dans le même temps, les Diables Rouges de Briançon se battent pour conserver une place en Ligue Magnus lors du play-down qui a bien commencé avec un succès face à Anglet. Ce vendredi, match capital sur la glace des Scorpions de Mulhouse, coup d'envoi à 20h.
L'actu des Alpes du Sud continue sur alpe1.com.